dissonance.
Trois fois par mois, histoire de voir les choses autrement, sous un autre angle ou dans une autre perspective, nous ferons ensemble un pas de côté pour prendre le temps d'écouter des parcours de vie. Des parcours vécus par des gens comme vous et nous, des voix dissonantes, des voix d'hommes et de femmes qui portent un éclairage différent sur nos rêves et nos folies.
Dissonance.
Joseph Hula
et Dany Joulier.
Moi, je ne peux pas empêcher la police de faire son enquête.
Yvan Colonna, conférence de presse du 22 mai 1999, document TF1.
C'est pas mon rôle, hein. Moi, personnellement, j'ai quitté le mouvement nationaliste. Je suis toujours nationaliste. J'ai quitté le mouvement nationaliste depuis 95, depuis fin 95. Et je ne milite plus. On m'accuse de faits. Moi, je dis qu'une chose, prouvez-le. Moi, je suis serein par rapport à ces accusations. Alors, peut-être qu'on a le profil des gens qui sont responsables de cette action, mais on n'y est pour rien. Donc, je ne vois pas pourquoi cet acharnement. Maintenant, ça devient grave parce qu'on s'attend à tout. On s'attend à tout. Quand on présente des gens comme des assassins ou comme un peu des extrémistes, des radicaux à grand renfort de publicité, quand les noms sont jetés en pâture, et on peut s'attendre à beaucoup de dérives.
Aujourd'hui, nous allons revenir sur l'affaire Yvan Colonna. Yvan Colonna, mort en mars dernier et inculpé pour avoir été le meurtrier présumé du préfet Erignac en Corse en 1998. Dans cette affaire, il y a ceux qui sont convaincus que Colonna est le meurtrier du préfet Erignac. Il y a aussi ceux qui estiment qu'il a été accusé sans preuve. Et puis, il y a ceux qui sont convaincus de son innocence. Vous êtes de cela, Monsieur Roland Laurette. Bonjour, Monsieur Laurette.
Oui, bonjour. Oui, je suis effectivement convaincu de l'innocence d'Yvan Colonna.
Très bien.
Et non seulement j'en suis convaincu, j'en ai la certitude.
On va y revenir. Je tiens à signaler aux auditeurs que vous n'êtes pas corse, que vous n'êtes ni autonomiste ni indépendantiste. Votre seul lien, et non des moindres, avec l'île de Beauté, c'est votre belle-mère qui est née à Cargèse, le village d'où est originaire Yvan Colonna. Vous êtes prof agrégé de lettres à la retraite et vous avez connu le jeune Colonna. Avant de revenir, Monsieur Laurette, sur le déroulé de l'affaire, quelle perception aviez-vous du jeune Colonna et quelles étaient vos relations avec lui ou sa famille ?
Oui, alors, avec sa famille, c'est une vieille relation. Hein. Nous nous sommes connus, on va dire, pour des raisons relativement politiques. Nous nous sommes connus en 73. Nous sommes au lendemain de la signature du programme commun de la gauche. Et nous nous sommes repérés sur la plage parce que je lisais le journal du principal syndicat d'enseignants du second degré. Et nous avons sympathisé immédiatement et les Colonna sont devenus des amis très proches. Parce que nous étions amis avec les parents, nous avons naturellement rencontré les trois enfants, dont Yvan, que j'ai vu enfant, et puis que j'ai vu adolescent, et je le raconte volontiers, quand il a passé le bac, je lui ai même donné des cours de français. Voilà. Alors, c'est un adolescent je suppose, il était déjà il se sentait déjà très corse. Il avait deux passions dans sa vie, hein, je crois. Mais il faut dire que Cargès, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un peu le paradis sur la terre, hein, et les Colonna habitent, oui, au bord de la mer, une très belle propriété, et je comprends qu'on soit attaché à cette terre, hein, il est difficile d'aller en Corse sans s'attacher immédiatement à l'île, bien sûr, et puis il a une seconde passion qui ne le quittera pas, et qui le tuera d'ailleurs, qui est le sport. Hein, le sport, quand il est en prison, il tiendra notamment par les exercices physiques. Quand il est adolescent, comme la plupart des adolescents, il connaît sa crise d'opposition aux parents, notamment au père, qui a un profil corse très déterminé. C'est le pater familias, c'est sa volonté qui doit primer sur toute chose, n'est-ce pas?
Le papa qui était un député socialiste, c'est ça qui voulait...
Il ne l'est pas encore à ce moment-là, d'accord. Mais il va le devenir. Et il y a déjà une opposition qui n'est pas formulée parce que rien n'est théorisé dans la tête de ces jeunes gens à ce moment-là. Jean-Hugues Colonna, le père d'Yvan, il était professeur d'éducation physique à Ajaccio, professeur syndicaliste, républicain, et quand il va devenir député ensuite, lorsqu'il arrive à Nice, il est un républicain, et il y a dès lors tout de suite une espèce de fracture, le mot est peut-être un peu fort, mais entre les enfants qui se sentent nationalistes et les parents, dont le père, qui se sentent républicains. Voilà.
Vous avez écrit, Monsieur Lorette, deux livres sur l'affaire Yvan Colonna. Le premier
qui s'intitule « Le roman de Yvan Stéphagès », en sous-titre « Clé pour l'affaire Colonna ». Et un second livre, toujours à la demande de l'éditeur, parce que le premier livre s'est beaucoup vendu, il faut le reconnaître, mais notamment en Corse, parce que les comités de soutien à Yvan Colonna se sont emparés de ce livre comme d'un outil, et ils l'ont diffusé très largement. Du simple point de vue éditorial, ça a été un succès. Mais les gens disaient « Ah oui, mais c'est un roman, j'avais changé les noms propres, les noms de lieux, et quelle est la vérité, quelle est la part de vérité, quelle est la part d'imaginaire là-dedans » Et donc l'éditeur m'a demandé de faire un nouveau livre qui serait écrit au premier degré, qui soit un essai en quelque sorte, et qui montre pourquoi je pouvais affirmer que Yvan Colonna était innocent. Voilà. Et donc ce livre-là, j'avais une dizaine d'années qu'il a été publié, aujourd'hui il se vend pratiquement comme des petits pains, parce que après la mort d'Yvan Colonna, j'ai fait paraître sur les réseaux un papier dans lequel je résume l'essentiel de cette affaire, et alors c'est un billet qui a circulé, qui continue de circuler, et du coup le Yvan Colonna, l'innocence qui dérange, se vend énormément.
Vous êtes aussi donc auteur de ces deux livres, vous êtes aussi l'auteur de nombreux textes parus sur le site de Mediapart, où vous écrivez. Je vous cite, « Je crois que dans cette tragédie, la responsabilité de l'État républicain s'enracine surtout dans la monstruosité judiciaire qui a permis de condamner quelqu'un à la peine la plus lourde du code pénal sur la base d'un dossier absolument vide. » Vous êtes aussi l'auteur, Monsieur Lorette, d'une lettre au garde des Sceaux Dupond-Moretti, qui a été l'ancien avocat de Colonna, un des anciens avocats de Colonna, et vous êtes aussi considéré dans le cadre de cette affaire comme l'un des meilleurs spécialistes du sujet. Yvan Colonna, un profil de coupable idéal. Roland Lorette sur Dissonance. L'affaire Colonna va commencer avec son arrestation, mais avant... Son arrestation en juillet 2003, mais avant, elle débute aussi avec le meurtre de M. Erignac le 6 février 1998, et peut-être même avant, avec une histoire de séparation entre les milieux autonomistes.
Tout à fait. Le préfet est assassiné le 6 février 98.
Bonsoir à tous. Le préfet de la région Corse a été assassiné de plusieurs balles dans la tête ce soir à Ajaccio par deux inconnus.
On ne peut pas faire une Corse avec des gens qui tuent, c'est pas possible.
Claude Erignac, 60 ans, originaire de Mende, en Lozère, avait fait toute sa carrière dans les cabinets ministériels et le corps préfectoral, nommé par le gouvernement Juppé il y a deux ans. Au moment où il a été tué, Claude Erignac, sans protection particulière, s'apprêtait à rejoindre son épouse dans un théâtre en ville afin d'y assister à un concert de musique classique.
Mais c'est très grave pour la Corse, madame, c'est tout ce que j'ai à dire.
S'il vous plaît, je vous demande de faire silence.
Oui, monsieur le Président. Nous venons d'apprendre l'assassinat en pleine rue du préfet de Corse, monsieur Claude Erignac. Pour dire notre indignation, je crois, unanime face à cet acte odieux, je vous demande de bien vouloir interrompre nos travaux quelques instants et de bien vouloir avoir tous ensemble quelques instants de recueillement.
Il n'y a pas de mots. C'est lâche. C'est immonde. C'est tout ce qu'on veut. Et pour le préfet. Et pour tout ce qui se passe en Corse.
Et la Corse vient de traverser une période très difficile dans le mouvement nationaliste, avec des oppositions souvent violentes. Il y a beaucoup d'assassinats qui sont commis. Hein. Les nationalistes corses disent que c'est la faute de l'État, notamment de Pasqua, qui a intrigué pour accentuer les rivalités entre groupes nationalistes. Alors moi, je ne sais pas si Pasqua, si le reproche qui est fait à Pasqua est judicieux ou non. Ce qu'il y a de certain, c'est que ces groupes-là, que ce soit le FLNC ou la Consulta et bien d'autres, personne ne les a obligés à commettre des attentats qui les a conduits à s'entretuer. Alors, donc effectivement, une période trouble. Ivan Colonna explique que quant à lui, la violence qui a opposé les différents mouvements, c'est l'un des éléments qui l'ont conduit à prendre ses distances avec l'action politique directe. Voilà. Et les autres raisons, c'est que au même moment, il a un enfant, Jean-Baptiste, si je veux le dire à la mode continentale, Juan Baptista, si c'est en Corse, il a un enfant et puis il crée sa petite entreprise qui est une bergerie, un élevage de chèvres.
Mais pourtant, monsieur Lorette, si je peux me permettre, il y a cette fameuse attaque à la gendarmerie de Pietrosella où on dit à laquelle aurait participé monsieur Colonna.
J'y viens. Alors, à la fin des années 90, il y a effectivement un groupe de nationalistes qui veut, par un coup d'éclat, revigorer le mouvement nationaliste corse et le mettre sur ce qu'il considère comme le droit chemin. Alors, il y a une série d'attentats, pas seulement en Corse, hein, et il y en a à Vichy, il y en a à Strasbourg, donc sur le continent, et puis, dans la nuit du 5 au 6 septembre 97, ce groupe-là, qu'on va appeler le groupe des anonymes, commet un attentat contre la gendarmerie de Pietrosella, qui se trouve au sud d'Ajaccio, dans la montagne. Et au cours de cette nuit-là, deux gendarmes sont enlevés, laissés dans la nature, et ils volent deux armes de service. Et l'un de ces pistolets va être utilisé pour assassiner le préfet Erignac.
Mais il me semble que Ivan Colonna avait été inculpé pour avoir ou commandité ou participé à cet attentat.
Ivan Colonna, naturellement, a nié avoir participé à l'attaque de Pietrosella. Et on va en donner deux éléments pour expliquer qu'il avait des raisons d'affirmer qu'il n'était pas à Pietrosella ce soir-là. Le premier élément, ça sera les témoins. Il y a à Cargèse, ce soir-là, deux témoins qui disent « Moi, j'ai été avec Ivan Colonna jusqu'à peu près 10 heures du soir. » C'est une jeune femme, Sylvie Cortesi, qui est une amie d'enfance, elle. Hein, et puis, il y a un restaurateur, qui Paul Donzella, chez qui Ivan Colonna va aller manger une pizza avec son fils, et ce restaurateur dit « il est resté dans mon restaurant jusqu'aux environs de minuit ». L'attaque de Pietrosella a lieu un peu avant 1h du matin. Pour aller de Cargèse à Pietrosella, il faut plus d'une heure, donc il est tout à fait inimaginable que Ivan Colonna ait pu se rendre à Pietrosella. Ça, c'est le premier élément, les témoins. Deuxième élément, les incompatibilités. Il y a, dans le commando qui attaque Pietrosella, deux hommes, Versini et Alessandri, ce sont des noms qu'on va retrouver, qui disent « Ivan Colonna était avec nous ». Mais voilà, le groupe se subdivise en deux sous-groupes. On va les appeler groupe A, groupe B. Alessandri est dans le groupe A. Et quand on lui demande où était Colonna, il dit « il était dans le groupe B ». Versini était dans le groupe B. Et quand on lui demande où était Colonna, il dit « il était dans le groupe A ». En somme, il n'était nulle part.
Et cinq mois après, c'est le meurtre du préfet de Corse, Erignac, représentant l'État, M. Erignac.
L'assassinat du représentant de l'État en Corse est un acte barbare, d'une extrême gravité et sans précédent dans notre histoire.
Jacques Chirac, président de la République.
Claude Erignac était un grand serviteur de l'État, qui mettait toute son énergie, tout son cœur, au service de sa mission en Corse. Je souhaite que toute la lumière soit faite le plus rapidement possible par les services chargés de l'enquête et que la justice puisse punir les responsables de ce crime odieux.
Escucha, yo vengo a cantar por aquellos que cayeron. No digo nombre ni seña, solo digo compañeros. Y canto a los otros, a los que están vivos y ponen la mira sobre el enemigo. Ya no hay más secreto, mi canto es del viento. Yo elijo que sea todo movimiento. No digo nombre ni seña, solo digo compañeros. Nada nos queda y hay solo una cosa que perder, perder la paciencia y solo encontrarla en la puntería, camarada. Papel contra balas no puede servir, canción desarmada no enfrenta un fusil. Mira la patria que nace entre todos, repartida, la sangre libre se acerca, ya nos trae la nueva vida. La sangre de Túpac, la sangre de Amaru, la sangre que grita, libérate hermano. La sangre de Túpac, la sangre de Amaru, la sangre que grita, libérate hermano. La sangre de Túpac, la sangre de Amaru, la sangre que grita, libérate hermano.
Ivan Colonna, un profil de coupable idéal. Roland Laurette sur Dissonance. Monsieur Laurette, donc ce 6 février 98, c'est le meurtre du préfet. On parle dans les médias de commando, mais on a parlé aussi de témoins, puis après il y a eu des arrestations. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, sachant qu'on va consacrer le plus de temps quand même au procès tout à l'heure?
Oui, alors le déroulé exact de la soirée du 6 février, bien malin, qui pourrait le dire?
Il y avait des témoins pourtant.
Oui, il y a de nombreux témoins. Ah. Et d'ailleurs, ce sera l'un des reproches qu'on peut faire à l'enquête. Il n'y a jamais eu, sauf au début, mais alors qu'on ne connaissait absolument pas qui étaient les coupables, il n'y a jamais eu de véritable reconstitution mettant en scène les témoins. Parce que si on écoute les témoins, en fait, le commando qui a tué le préfet Erignac était beaucoup plus nombreux que ce que dit le scénario officiel. Toujours est-il que le préfet Erignac sort de la préfecture quelques minutes avant 21h. Il arrive en voiture jusque devant le théâtre du Calisté qui se trouve dans la rue Colonel Ornano, où il va au concert. Il est attendu là par des gens, notamment Joseph Colombani, dont nous allons reparler. Il s'arrête devant le théâtre, il dépose son épouse et il dit « j'arrive tout de suite ». Il va se garer. À ce moment-là, vous notez que personne ne peut savoir où il va se garer, il ne le sait pas lui-même. Donc il cherche dans le quartier, il trouve une place qui est au bas de la rue Colonel Ornano et il remonte à pied cette rue pour arriver au Calisté. Là, arrivant, il y a une impasse qui porte le même nom, l'impasse Colonel Ornano. Il traverse cette impasse et là, un coup de feu. Il comprend qu'il est agressé, il s'écarte vers l'impasse, un second coup de feu le ramène vers la rue et là, il monte sur le trottoir qui se trouve devant un restaurant, le restaurant du Calisté, il s'appelle le Calisté aussi. Alors, c'est un détail qui a une grande importance parce que ce soir-là, comme par hasard, l'éclairage municipal fonctionne très mal. On y voit très peu, sauf naturellement devant le restaurant du Calisté, parce qu'il y a de grandes baies qui sont éclairées et qui éclairent la scène comme une scène de théâtre. Donc, le préfet monte sur le trottoir, il y a deux marches pour accéder au trottoir, et là, trois coups de feu. Le premier le tue, hein, les trois sont mortels, donc le premier le jette à terre, et puis le tueur, à nouveau, tire deux coups. Le préfet de Corse est mort. Voilà les faits.
D'accord. Et donc, de suite, arrive... C'était le SRPJ d'Ajaccio qui mène l'enquête,
voilà, c'est ça c'est dirigé par Demetrius Dragacci, qui commet un certain nombre d'erreurs ce soir-là, mais je comprends que l'émotion puisse être vive. On vient d'assassiner un préfet, c'est la première fois depuis la Résistance. Hein. Alors, il a, lui, une intuition majeure. L'intuition est la suivante. Il dit « ça, c'est le coup de nationalistes à la dérive et ils ont forcément correspondu par téléphone. »
Ah voilà, portable. La téléphonie importante.
Et donc il s'est vitrifié tous les appels téléphoniques qui ont eu lieu ce soir-là entre 20h et 21h30.
3600 appels.
Il va être dessaisi de l'enquête par chevènement. On va la donner à Roger Marion qui ne va rien y comprendre et il faudra attendre 8 mois pour qu'on s'intéresse à la téléphonie et là on va découvrir que entre 20h16 et 20h57 il y a 8 appels téléphoniques entre deux les mêmes téléphones portables de quelques secondes chacun et quand on va analyser qui peut avoir téléphoné avec ces portables-là, on va trouver que l'un appartient à un restaurant qui s'appelle Le Grand Bleu et l'autre appartient à une société de transport qui s'appelle La Filac. Et dans ces deux sociétés travaille l'un Ferrandi qui se révélera être le chef du commando et l'autre c'est Maranelli qui sera le guetteur devant la préfecture.
21 mai 1999, France Inter.
En Corse, les policiers ont ratissé large ces dernières heures. Hier et aujourd'hui, ils ont interpellé ou interrogé une douzaine de personnes proches du militant nationaliste Alain Ferrandi, lui-même arrêté. 6 personnes ont été transférées à Paris et les compagnes de 3 d'entre eux sont toujours gardées à vue à Ajaccio. Michel Colaccioni, vous êtes en direct avec nous de Corse. Les policiers pensent tenir le groupe opérationnel de l'assassinat du préfet Erignac et comme ils ne disposent pas de preuves tangibles mais simplement d'indices, ils veulent manifester faire pression sur l'entourage des suspects.
Effectivement, faute de preuves, faute de charges formelles, qui manquent toujours depuis 15 mois quand même, les enquêteurs travaillent avec des présomptions lourdes. Vous disiez, pas de preuves, mais des présomptions suffisantes pour que le juge Bruguière poursuive l'action psychologique.
Donc ces personnes vont être arrêtées, et très vite, en garde à vue, elles vont donner un autre nom. Oui. Supplémentaire qui n'apparaissait pas jusqu'alors, c'était le nom d'Ivan Colonna.
Absolument.
Et ils le désignent même comme tueur. Et c'est confirmé par leurs épouses.
Voilà, voilà. Alors, c'est que le nom de Colonna apparaît effectivement assez rapidement. On pourrait même se dire, si on avait mauvais esprit, qu'ils en parlaient bien vite, ces redoutables terroristes, n'est-ce pas ? Enfin bref, ça c'est une question secondaire. Le nom de Colonna, la police va dire qu'elle ne le connaissait pas et elle va le découvrir en garde à vue. Ça, c'est un gros mensonge. C'est un gros mensonge parce que le nom de Colonna, il était effectivement connu de la police, il y avait eu des enquêtes sur lui et il a été même filé et écouté pendant plusieurs mois. Ce qui est intéressant, c'est que la police éprouve le besoin de dire qu'elle ne connaissait pas ce nom-là et qu'elle ne pouvait donc pas le souffler au gardé à vue. Et si elle ment, ça veut dire que c'est très important. N'est-ce pas ?
Tout à fait, voilà. Tout à fait.
Donc, le nom de Colonna apparaît, et c'est ici, si vous voulez, je vais vous donner ce qui me paraît être l'un des arguments en faveur de l'innocence, c'est le suivant. Donc, le commando est arrêté le 21 mai 1999, et entre le 21 et le 23, ils vont parler. Alors, la technique policière, elle est très claire. Il y en a un premier qui parle, on va dire au second, mais le premier a dit que. Puis, donc, il va avouer. On va dire au troisième, mais le deuxième et le premier, ils ont dit que. Donc, il va avouer, ainsi de suite. Or, si vous voulez que des aveux en garde à vue soient incontestables, il faut que les interrogatoires soient étanches, qu'on n'utilise justement pas ce qui a été dit ailleurs. Or, là, nous avons la démonstration. Je vous assure, j'ai lu et relu les procès-verbaux de garde à vue. Je peux vous dire que c'est avoué avec une grande naïveté que, effectivement, les interrogatoires n'ont absolument pas été étanches. Mais surtout, c'est qu'ils sont, on va nous dire, la police va dire, ce sont des aveux réitérés et concordants. Alors concordants, alors ça, si c'était concordant, c'est embêtant pour Ivan Colonna, parce que la répétition, les détails, ça ne prouve rien du tout. La concordance, ça pourrait prouver quelque chose. Seulement, voilà, je vais vous donner trois cas. Le premier que j'ai donné tout à l'heure à propos de Pietrozelle, Alessandri qui dit Colonna était dans le groupe de Versini et Versini qui dit il était dans le groupe d'Alessandri. Première contradiction. Deuxième contradiction. Maranelli, qui est aussi le chauffeur, qui a été le guetteur devant la préfecture, dit « J'ai amené Colonna à une adresse en ville où quelqu'un lui a donné l'arme du crime. » Alors, je suis assez étonné que la police n'ait pas été davantage curieuse en ce qui concerne cette adresse en ville et ce quelqu'un. Bon, donc, le pistolet aurait été donné à Colonna en ville. Alessandri, de son côté, dit « J'ai donné l'arme du crime à Colonna au hangar de Baleone, à quelques kilomètres d'Ajaccio. » Vous m'avouerez que sur le détail de l'arme du crime, c'est quand même assez surprenant qu'un an après, ils aient perdu la mémoire à ce point et qu'ils se contredisent aussi gravement. Troisième contradiction, c'est le lendemain, c'est-à-dire le 7 février. La femme de Maranelli dit « Ivan Colonna est venu chez moi, voir mon mari, avant 9 heures. »
Le matin, oui.
Au début, elle dit même 7 heures, mais la juge Levert va lui faire modifier ses déclarations. Enfin, avant 9 heures, peu importe. La femme de Ferrandi dit de son côté « Mon mari, Ferrandi, Alessandri et Colonna sont arrivés chez moi le vendredi soir après l'attentat vers 9h30 et Colonna est resté chez moi jusqu'au lendemain midi. » Donc, d'après ses déclarations, il aurait été à la fois à Ajaccio jusqu'à midi et à Cargèse avant 9h du matin. Comme Colonna n'a pas le don d'ubiquité, on va dire que là, il y a une grave contradiction. Des contradictions de ce type, j'en ai relevé une quinzaine. dans les comptes rendus de garde à vue. Voilà. Donc, moi, c'est l'un des arguments qui me font douter de la culpabilité de Colonna.
Ivan Colonna, un profil de coupable idéal. Roland Laurette sur Dissonance. Et malgré ça, donc, il est désigné comme l'ennemi public numéro un dans cette affaire. France Soir le désigne comme le tueur.
On m'accuse de faits, moi je dis qu'une chose, prouvez-le, prouvez-le. Moi je suis serein par rapport à ces accusations. Alors peut-être qu'on a le profil des gens qui sont responsables de cette action, mais on n'y est pour rien, donc je ne vois pas pourquoi et cet acharnement.
Et il va partir en cavale pendant 4 ans.
Il part en cavale, effectivement.
Est-ce que c'est une bonne idée, cette partir en cavale? Est-ce que ce n'est pas signer son acte d'accusation?
C'est ce que j'entends beaucoup dire, effectivement, dans les salons du livre, quand je présente mes livres, ou dans les débats auxquels je participe. On me dit, mais puisqu'il est parti en cavale, c'est qu'il se sentait coupable. Eh bien, non. Alors, d'abord, je pense tout bêtement qu'il y a une espèce de romantisme corse. Vous savez, c'est une tradition en Corse, la cavale, les bandits d'honneur qui s'en vont dans le maquis. Et puis, le plus important n'est pas là pour les arguments. C'est que lui et ceux qui l'ont aidé à partir en cavale ont été immédiatement convaincus que s'il était arrêté, il se ferait descendre. Parce que ça intéressait trop de monde. Hein, aussi bien chez les enquêteurs que chez ceux qu'il avait accusés, qu'il soit descendu. Imaginons qu'il ait été tué pendant son arrestation, le problème était résolu, n'est-ce pas?
Oui.
Donc il part en cavale, et alors moi, il m'est arrivé de lui demander, mais enfin, pourquoi tu n'es pas revenu plus tôt? Pourquoi tu ne t'es pas débrouillé pour aller à une reddition grâce à ton père qui a été au ministère de l'Intérieur? Alors, ça, c'était quelque chose, ça ne ressemble, c'est pas Ivan Colonna, ça. Ivan Colonna, il a bien des qualités, mais il a des espèces de raideurs de caractère qui faisaient qu'il était incapable de ce genre de négociation. Toujours est-il qu'il est arrêté, donc, le 4 juillet 2003. Et le soir même, le ministre de l'Intérieur de l'époque, Nicolas Sarkozy, qui tient une réunion publique dans le sud de la France, déclare devant son public:
la police française vient d'arrêter Ivan Colonna, l'assassin du préfet. Je pense à cet instant à une personne. À Madame Erignac, ouais, qui a tant souffert, à son fils et à sa fille. Et cette arrestation, je veux la leur dédier.
Le jour où il est arrêté, c'est la veille du référendum voulu par Nicolas Sarkozy sur le statut de la Corse. Et il se dit même, une amie corse m'a dit que les politiques savaient très bien, et ainsi que la police, où se cachait Colonna, et qu'ils l'auraient arrêté quand le moment était favorable.
Oui, alors votre ami corse a tout à fait raison, certainement. Il m'est arrivé dans un débat public auquel je participais d'être confronté à quelqu'un de la police qui avait appartenu à la direction nationale de la police et qui m'a confirmé que effectivement la police connaissait la planque de Colonna dans la bergerie d'Olmetto et avait installé des micros dans la bergerie. Avait installé des micros et des caméras. Les caméras, c'est absolument certain, puisque on a vu dans Paris Match la publication d'une photographie d'Ivan Colonna, torse nu et barbu, au portail du terrain. Donc, oui, la police savait. Et c'est pas la veille, mais deux jours avant, c'est ce qui est pas important. Il est évident que on a tenu ça au chaud pour que ça fasse le meilleur effet possible pour le référendum en Corse que Nicolas Sarkozy avait organisé. Ça n'a pas eu beaucoup d'effet, en tout cas pas l'effet escompté, puisque Nicolas Sarkozy a été battu pour ce.
Voilà, Ivan Colonna a pu être instrumentalisé au profit de, oui. En tout cas son arrestation, oui. Au profit de certains politiques. Et pour avancer, il y a eu ensuite trois procès que vous avez suivis de façon très attentive, des procès qui ont été menés par des cours d'assises spéciales, puisque c'était considéré comme un attentat terroriste, composé d'un jury constitué de magistrats professionnels, pas de jury de citoyens.
Pas de jury populaire.
Voilà, qui étaient des magistrats, donc qui étaient des juges d'instruction, qui avaient été nommés par, vous direz tout à l'heure, par une certaine personne, elle-même aux ordres de Nicolas Sarkozy. Donc en fait, c'est un procès où ils sont tous entre collègues, membres de la même caste, la caste judiciaire des juges d'instruction.
Oui, alors il faut comprendre pourquoi ces jurys, ces cours spécialement constitués, ont été mis en place parce que avec le terrorisme, pas seulement corse, c'est qu'il y avait des menaces très graves qui pesaient sur les membres des jurys et il y avait des jurés qui ne voulaient plus siéger. Donc, on a mis des professionnels pour éviter les pressions sur les membres du jury. Alors, ce système a été condamné par la Ligue des droits de l'homme parce qu'il est un peu attentatoire à l'état de droit, effectivement. Alors, j'ai entendu les deux arguments qui me sont opposés chaque fois que je suis en public, c'est d'une part la cavale, effectivement, et d'autre part, on me dit, mais il a été condamné trois fois, c'est quand même qu'il était coupable. Et à quoi je réponds, il n'a été condamné trois fois qu'en apparence, parce que en réalité, trois fois, il a été jugé par les mêmes, pas par les mêmes personnes, bien sûr. Elles étaient différentes, à chaque fois il y avait des présidents différents, mais les cours spécialement constitués le sont par un seul homme, le premier président des cours d'appel de Paris. Et ce premier président des cours d'appel, c'est lui qui désigne le président et c'est lui qui désigne ses assesseurs. Pour les trois procès, c'était le même président de cour d'appel, et lui-même avait été mis en place par le président de la République de l'époque, qui était Nicolas Sarkozy. Ce qui me conduit à dire que l'argument des trois procès n'en est pas un. N'en est pas un, voilà. Je dis, parce que ça me traverse l'esprit maintenant, le dossier contre Ivan Colonna, celui qui l'a mené à la condamnation à la perpétuité, était un dossier vide. Dans ce dossier, il n'y avait que les accusations en garde à vue. J'ai dit tout à l'heure ce qu'il fallait en penser à cause de leurs contradictions. Elles s'annulaient d'elles-mêmes. Mais par ailleurs, ceux qui avaient formulé les accusations en question, ils les ont toutes retirées. Il n'y avait plus rien. Mais, bien évidemment, ça n'empêche pas que il faut examiner tout ça de très près, n'est-ce pas? Il y a si peu d'arguments dans le dossier contre Ivan Colonna que Roger Marion, directeur de la DNAT qui a mené l'enquête.
Le policier, oui.
Le policier. Et Jean-Claude Cross, qui a été avocat général au premier procès, mis en difficulté par des journalistes, ont chacun admis que dans leur dossier, ils n'avaient que leur intime conviction. En France, alors, qu'un juge tranche dans un procès à partir de son intime conviction, c'est la loi. Mais que l'homme qui a mené l'enquête, l'homme qui parle au nom de la société, fasse état uniquement de son intime conviction, ça en dit long sur le vide du dossier, je le répète, qui va conduire trois cours de justice à condamner quelqu'un à la peine la plus lourde du code pénal. N'oublions pas que si on avait été avant 81, Ivan Colonna, il aurait été condamné à la peine de mort.
Con un grafo, ella escribe en las paredes resistir, bufanda rojinegra por la espalda, minifal, Ana Clara. Borra infancia, aprendiendo en bellas artes a crecer, con pechos de rosales sin espina, agua marina, Ana Clara. Es de agua cuando el hijo se enamora de la sed, y si el niño le regala una amapola, llora sola, Ana Clara. Nunca encuentra porque busca siempre el modo de no hallar, aunque sabe que lo nuevo se conquista, anarquista, Ana Clara. Si la guien de tan tierna tiene miedo de morir, y entonces pone espinas en las rosas, temerosa Ana Clara. De mañana va tejiendo los telares de la duda, aún desnuda preguntándole al espejo un consejo, Ana Clara. Hospitales que conocen la dulzura de sus manos, los dolores con mirarla ya se olvidan, fisiatría, Ana Clara. Si el camino, Ana Oscura, siempre claro quieres ver, si el camino, Ana Oscura, siempre claro quieres ver, nunca dejes, Ana Clara, tu locura compañera, tu locura de palomas casi halcones, tus pasiones, Ana Clara. Tus pasiones, Ana Clara.
Roland Laurette sur Dissonance. Et tout au long de ces procès, chaque fois, alors que dans le droit français, il est dit que c'est à la partie civile d'apporter la preuve de l'accusation, là, on a toujours demandé à Ivan Colonna et à sa famille et à ses avocats d'apporter la preuve de son innocence. Et le doute n'a pas profité à Ivan Colonna. Et j'ai une question avant de venir aux visites avec, au parloir avec Ivan Colonna. À qui a pu servir le fait de désigner Yvan Colonna comme meurtrier du préfet. Ça a servi au clan Sarkozy, aux politiques, ça a servi aux autonomistes, aux indépendantistes corses.
Votre question demanderait un long développement. Alors, je pense que ça a servi d'abord aux politiques. Vous savez, je rappelle que en 98-99, c'est l'époque de la cohabitation entre Jacques Chirac et Lionel Jospin.
Oui.
Ils savent tous les deux qu'ils seront candidats aux présidentielles suivantes, en 2002. Ils savent donc qu'ils seront adversaires. Et sur une question comme l'assassinat d'un préfet, la tension au plus haut niveau de l'État est extraordinaire. Et donc, la pression sur les policiers pour qu'on arrive à trouver la solution, elle est démente. Hein. Et donc, alors on va passer sur les errements de Roger Marion qui n'a rien compris à cette affaire et qui s'est fourvoyé pendant des mois et des mois sur ce qu'on a appelé la piste agricole. Il faut attendre en réalité les révélations en fait par un certain Corté au préfet Bonnet qui a succédé au préfet Erignac pour mettre sur la voie de la piste des véritables coupables. Mais ceux-ci vont, on va désigner Yvan Colonna et je crois pouvoir dire donc qu'il était innocent parce qu'il y a une question qu'on n'a pas du tout abordée qui est l'histoire des témoins.
21 novembre 2007, France Inter.
Ce sont les deux témoins, les deux seuls qui ont vu le tireur. Elles passaient à ce moment-là en voiture, elles étaient à 2 mètres du trottoir scène du crime, la mère et la fille, la mère conduisait, détonation, elle voit 2 hommes. Le plus près est grand, mais dit-elle, je n'ai pas vu son visage, plutôt une silhouette, une ombre, mais il était grand. Et je regarde Monsieur Colonna, c'est clair et net, ce n'était pas lui. La fille voit aussi 2 hommes, un brun, un blond, et le blond est en train de tirer vers le sol, qu'elle ne voit pas. Une voiture en stationnement lui cache la victime. Blond, de taille moyenne, 30-35 ans, dit-elle, nos regards se sont croisés. À l'époque, j'aurais sans doute pu le reconnaître, mais aujourd'hui, elle se tourne vers le box. Je suis formel, ce n'est pas Monsieur Colonna que j'ai vu le soir des faits.
Ils disent, l'homme que nous avons vu tuer, le préfet Erignac, ce n'est pas Yvan Colonna. Ils ne disent pas, je ne reconnais pas Yvan Colonna, ils disent, ce n'était pas lui. Et puis, il y a des témoins, aussi bien pour Pietrozella que pour l'assassinat du préfet Erignac à Cargèse, qui disent, nous avons vu Yvan Colonna ce soir-là à Cargèse. Bon. Ce mensonge, à qui il a servi? Alors, il a servi certainement aux politiques, je le crois, il a servi à la police à se faire mousser, il a servi à des juges d'instruction, à l'ego démesuré à se faire mousser aussi. Mais n'oublions pas que quand on envoie un innocent en prison, il y a forcément un coupable qui est dans la nature.
Oui.
Et la question c'est, quel genre de véritable coupable ont-ils été servis par ces accusations sur un innocent? Qui a manipulé le groupe, le commando Erignac? C'est ça la question. Pourquoi a-t-on voulu assassiner le préfet Erignac? Le préfet Erignac était un grand serviteur de la République, un homme d'une grande droiture, d'une grande loyauté. J'ai beaucoup d'estime pour cet homme. Hein. Et il était d'une grande rigueur, il voulait appliquer la loi, et ce faisant, il gênait beaucoup de monde, beaucoup de gens qui voulaient installer des maisons de jeu, des maisons de prostitution, des lessiveuses à blanchir de l'argent sale. Et je crois que tant qu'on ne cherchera pas dans cette direction-là, on ne trouvera pas le véritable coupable.
Une fois Yvan Colonna incarcéré et condamné à perpétuité, pendant plus de 200 heures, pendant plus de 70 fois, vous êtes allé le voir, le rencontrer, discuter avec lui en prison. Est-ce que lui aussi, il avait votre perception, il se disait, mais qui peut être derrière tout ça? Qui a voulu m'envoyer en prison pour se dédouaner?
Bien sûr qu'il se posait la question, mais alors, contrairement, là aussi, c'est peut-être le troisième argument que j'entends contre lui, mais il n'a qu'à parler, il n'a qu'à dire qui est le véritable coupable. Mais pour dire qui est le véritable coupable, il faudrait le connaître. Or, un certain nombre de détails que je n'ai pas le temps d'aborder ici, hein, montrent que Sans doute, le véritable coupable a été exfiltré le soir même. Hein. Il est parti ailleurs. Il y a des noms qui courent d'ailleurs, hein, selon la rumeur. Et ce véritable coupable, il est ailleurs. Il s'est vraisemblablement réfugié, dit-on, en Afrique. Bon, voilà. Et Ivan Colonna ne connaissait pas le parce que pourquoi il a été accusé. Je crois qu'au troisième procès, Alessandri a fini par cracher le morceau. Ils l'ont accusé parce qu'il lui en voulait. Et pourquoi lui en voulait-il ? À cet homme qui avait été leur ami pendant des années, qui avait milité avec eux. Il lui en voulait parce que...
Alessandri était un membre du commando, hein, c'est ça.
Oui, oui, oui. Après l'échec de l'attentat de Pietrosella, ils ont voulu sauter plus haut. Et donc, c'est là qu'ils ont commencé à chercher un autre attentat qui obligerait l'État et la presse à parler d'eux. Et donc, Alessandri vient un jour trouver Colonna dans sa bergerie et lui propose de participer à un autre attentat. Et Colonna refuse. Il refuse parce qu'il a dit, moi, d'abord, je ne participe pas à des attentats violents. Hein. Deux, j'ai mon travail, j'ai mon fils, donc il n'est pas question que je participe. Et malgré les attentats, ses amis ne lui ont pas pardonné.
Est-ce que vous dites, monsieur, les propos de Ivan Colonna, vous les tenez de sa propre bouche, c'est ça ?
Tout à fait, tout à fait. Tout
d'accord.
Tout à fait, voilà. Ça, 70 parloirs, plus de 200 heures de conversation, on en dit beaucoup de choses. Et Ivan m'a beaucoup parlé, effectivement, mais il m'a dit ce qu'il pouvait savoir. S'agissant de qui était le tireur, on ne le sait pas. D'ailleurs, chose assez extraordinaire qui donne une indication grave sur la façon dont l'instruction a été conduite dans cette affaire-là. Trois juges d'instruction sont désignés qui se haïssent entre eux, qui se jalousent, qui ne collaborent pas. Hein, ils se cachent des choses les uns aux autres. Bien. En octobre 2004, Alessandri écrit à la juge Levert pour lui dire « Celui qui a tiré sur le préfet, c'est moi ». Vous m'avouerez que c'est une révélation importante, de premier plan. Eh bien, on pourrait s'attendre à ce que la juge Levert réagisse vivement. Que fait-elle, cette juge d'instruction, à qui quelqu'un dit « Le tireur, c'est moi ». Eh bien, ce qu'elle fait, c'est rien. Littéralement, rien. Elle aurait dû au minimum convoquer Alessandri, lui dire « Mais comment, vous avez dit jusqu'à présent que, et maintenant vous me dites ça, mais est-ce que vous pouvez aller me donner davantage de détails ?» Elle aurait dû convoquer les autres membres du commando pour leur dire « Mais Alessandri dit que c'est lui le tireur, qu'est-ce que vous en pensez ?» Rien du tout, elle ne fait rien. Elle tient un coupable, elle ne veut pas le lâcher. Et c'est dans cette affaire-là, une fois que le nom de Colonna a été prononcé, il a été gravé dans le marbre, il n'a plus été question d'y toucher. Voilà. Et c'est ce qui explique cette espèce d'aberration, cette monstruosité judiciaire que sont les procès Colonna.
Est-ce qu'Ivan Colonna avait l'espoir, est-ce qu'il vous a dit qu'il avait l'espoir un jour qu'on trouve le coupable, l'espoir d'être libéré, de revenir sur son île un homme libre ?
Oui, bien sûr, il avait cet espoir-là. On travaillait tous les deux à la mise sur pied d'une argumentation la plus exhaustive possible. C'est pour ça que j'ai en ma possession une grande quantité de détails par exemple sur la cavale. Hein. Alors la cavale, il m'a beaucoup parlé de sa cavale qui a été d'une certaine façon. Vous savez, j'ai parlé de romantisme corse tout à l'heure. Je n'étais pas loin de la vérité sans doute. Il m'a raconté plein de choses sur cette cavale sans jamais me donner un seul détail qui aurait permis de remonter jusqu'aux gens qu'il avait aidés. Parce que Ivan Colonna, il avait cette loyauté-là. Voilà.
Est-ce qu'un jour, on saura le fin mot de cette histoire, hein, M. Lorette ?
Ça, c'est une... Moi, je pense que un jour ou l'autre, quelqu'un crachera le morceau. Je le pense. Quand, c'est une autre question. En tout cas, ceux qui savent la vraie vérité et qui n'ont pas parlé, en se taisant, ils ont condamné Ivan Colonna à mort. Bien sûr, ils ne le savaient pas qu'un jour il serait assassiné par un djihadiste dans la prison d'Arles. Bien sûr, ils ne le savaient pas. Mais dans ces cas-là, d'abord, on lui a volé sa vie à cet homme. On lui a volé sa femme, sa compagne. On lui a volé ses enfants. On lui a volé la vie simple de tous les jours. Le plaisir, il me parlait avec une tendresse incroyable, une émotion de son travail de berger, des odeurs du maquis, des odeurs du lait de chèvre. C'était, je vous assure, bouleversant. Ivan Colonna, pour l'avoir approché. C'était pas un homme facile, hein, je vous le dis tout de suite. Hein, et on a eu des moments même difficiles au parloir. Mais c'était un homme d'une grande qualité. C'était un homme, en fait, d'une grande culture, d'une grande rigueur et d'une grande loyauté. Jamais, je vous assure, rien qu'à cause de cela, j'affirme que cet homme-là n'a pas pu tuer quelqu'un. Moi, je pense que, je crois savoir que du côté de la famille, on est en train de s'en occuper, il faudra un jour réviser ce procès. Il faudra que la vérité éclate. Alors, peut-être ne saura-t-on pas le nom du tueur, mais au moins, aura-t-on dit que Ivan Colonna avait été condamné à tort au prix d'un ensemble de forfaitures qui sont absolument scandaleuses, les forfaitures, dans un état de droit et dans une démocratie.
Merci beaucoup, monsieur Lorette.
C'est moi qui vous remercie de m'avoir donné l'occasion d'expliquer tout cela. Je suis très, très volontaire pour participer à ce genre d'émission parce que ce qu'on peut faire au moins, il faut le faire. Moi, je ne peux pas refaire le procès, mais ce que je peux faire, je le fais.
Cette émission est à réécouter sur les ondes de Radio Centrafrique ainsi que sur le site dissonance.ovh où elle peut être téléchargée afin de l'écouter quand et où cela vous dit.
Salut
et fraternité.
Patronata di Varenza, usanza oggi che rumbic, che ducchi naso lingua pensa, a me lingua di quando mai di senza, non mu senza logo, conta allora con me li guai e li me speri di ravogo, e usò. E usò un po' che mica. Crudo silenzio ci tenni di sta bugia calcica, ma la musica litiga, ecco parti di me veni. Un silenzio più che di muri, ecco la guida sorti mio
immensa la mugiarada di usanza d'ara nel nuovo. Chissà, lo parchiero gomo d'una dignità ricusata.
Cresci pensa la diama fuoco, questa lingua di quando mai, di senza dritti nell'uomo, vuol più conta gli so guai. Era Eulu parche mica, rinato la medivarenza, odiame morti vinsi rica, a me lingua si fa gimenza.